Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un texte inédit d'Henri Corbin qui s'appelle « Le combat pour l'ange ». Si tantôt avec M. Jambet, on était très centré sur Havardi, ici on va se recentrer sur Corbin lui-même. Puis on va essayer de situer un petit peu ce texte dans sa pensée. Oui, donc juste vous dire que toutes les citations que je vais lire seront aussi affichées en même temps sur le PowerPoint. Je suis désolé qu'on n'ait pas un plus grand écran pour les gens au fond. Ça va vous aider à suivre, surtout pour la dernière section où j'ai tiré beaucoup de citations pour vous donner une idée du texte « Combat pour l'ange ». On va d'abord commencer avec l'histoire matérielle. On va ensuite passer à l'histoire intellectuelle du texte. Et ensuite, on va faire vraiment une incursion dans le texte. Donc, ce livre inédit a été élaboré à partir d'une conférence que Corbin prononça à l'Institut franco-iranien de Téhéran le 22 mai 1947. Une étude... Oui, je vais juste être sûr, certain que je suive mon PowerPoint correctement. Donc, une étude qui est inédite en français, mais qui a été publiée dans une traduction italienne faite par Raphaël Ebji en 2011. Je précise que je ne connais pas tout à fait les circonstances qui ont mené à la publication du texte en italien et que moi, j'ai travaillé essentiellement à partir du texte qui se trouve dans les archives Corbin, puis que toutes les citations qui seront lues aujourd'hui sont les citations et les mots de Corbin lui-même. Donc, le manuscrit, dans la version amplifiée et remaniée de la conférence de l'Institut franco-iranien, est daté et signé du 7 avril 1950. Donc, 3 années séparent donc le texte de la conférence initiale prononcée en mai 1947 et la version quasi finale du texte que l'on trouve dans les archives Corbin. Ce texte est une dactylographie de 107 pages, accompagnée d'une page de présentation manuscrite destinée à l'éditeur et d'une table des matières présentant 5 grands thèmes et divisée en 16 sections de 5 à 10 pages chacune. À noter que le texte a été dactylographié à partir de 2 machines à écrire différentes. Puis pour la personne qui a fait le catalogue des archives Corbin, il faudrait un jour prendre le temps de vérifier les typographies pour voir si on est capable de resituer encore plus précisément le texte lui-même. Donc, je vous passe rapidement la table des matières du texte. Les 5 grandes sections, donc d'abord la hiérophanie de l'espace, ensuite la hiérophanie du temps, les angélophanies zoroastriennes, le mystère zoroastrien, puis l'exégèse des hiérophanies mazdéennes dans l'Iran islamisé. Ici, juste une petite note sur le mot exégèse. En 50, de 47 à 50, Corbin utilise exégèse plutôt que herméneutique ou herméneutique spirituelle. Donc, avec ce texte-là, ce qui va être très intéressant, c'est justement de situer des évolutions dans son langage et dans sa pensée. Donc, si j'ai précisé qu'il s'agit d'une version quasi-finale du projet de livre de Corbin, c'est parce que sur la page de présentation manuscrite destinée à l'éditeur, Corbin précise que l'introduction a été préparée dans un autre cadre et qu'elle nécessite encore quelques ajustements pour bien introduire l'architecture des différentes sections du livre. Il indique également qu'un postlude d'une dizaine de pages sera aussi à ajouter au manuscrit. Celui-ci devait discuter, dit-il, de l'aspect mazdéen de l'ange, dans sa, je cite, « sa signification absolue actuelle ». Donc un postlude qui, d'après mes recherches, n'a jamais été écrit. Donc, malgré son intention d'ajuster l'introduction et d'ajouter un postlude, on peut considérer ce texte de 107 pages comme un texte final, puis il ne s'agit pas d'un texte fragmentaire ou reconstitué. Donc, sur l'origine des textes qui composent ce livre, plusieurs choses sont à dire. D'abord, 2 projets distincts ont porté le même nom, qui est « Le combat pour l'ange ». Donc, il y a d'abord un texte inédit, celui que je présente aujourd'hui, et qui est le premier projet à porter ce nom. Il faut savoir que le titre « Combat pour l'ange » est lui-même déjà une transformation du titre originel de la conférence du 22 mai 1947, qui était simplement intitulé « Propos de philosophie mazdéenne ». Ce premier titre est encore présent sur le tapuscrit du combat pour l'ange, mais Corbin propose à l'éditeur ce nouveau titre qui correspond à la 9e section du texte. Le titre de la conférence du 22 mai 47 a lui aussi pris plusieurs formes. D'abord, recherche philosophique autour de Zarathoustra, Ensuite, essai de philosophie mazdéenne autour de Zarathoustra. Et finalement, propos de philosophie mazdéenne. Puis la rédaction de ce texte-là fut terminée le 14 mai 1947 à 4h40 du matin. Donc on voit que M. Corbin travaillait très tard le soir. Donc au départ, le combat pour l'ange était destiné à être publié dans le recueil L'âme de l'Iran sous la direction de René Grousset. Toutefois, dans une lettre du 23 mai 1950 envoyée à ce dernier, Corbin indique: relisant la conférence que vous aviez tenue en main propos de philosophie mazdéenne, elle ne m'a pas plu du tout. J'ai refondu toutes les notes que j'avais rédigées là-dessus et tout ce qui a mûri dans ma tête depuis. Il en est résulté un manuscrit de 107 pages. La taille de l'article maintenant proposé par Corbin étant totalement disproportionnée pour le livre, par rapport aux autres textes, il était plus possible pour lui de le publier dans ce volume-là. Donc voilà pourquoi Corbin, il republiera finalement l'Iran, patrie des philosophes et des poètes, un petit texte initialement publié dans l'hebdomadaire protestant Réforme, qui datait du 19 octobre 1946. D'ailleurs, la présentation de Corbin faite par les éditeurs du journal, puis qui n'a pas été reprise dans le L'âme de l'Iran, mérite, je pense, d'être rappelée, parce qu'elle est quand même extrêmement significative. Donc, on y lit dans cette introduction faite par l'éditeur dans le texte « L'Iran, patrie des philosophes et des poètes », notre ami Henri Corbin, philosophe, traducteur d'Heidegger, qui fut le père de l'existentialisme, théologien, orientaliste éminent, et particulièrement versé dans les problèmes de la philosophie iranienne. Et là, on annonce de quoi il nous parlera. Mais je pense que c'est quand même assez significatif la manière dont on présente Corbin à ce moment-là. Donc, je pense que ça résume vraiment bien le personnage Corbin. Pour revenir à la publication de « Combat pour l'ange », l'intention de publier le texte dans « L'âme de l'Iran » est aussi confirmée par une note de bas de page qui se trouve dans sa première conférence Eranos de 1949. Il écrit à la note 109 du récit d'initiation et l'hermétisme en Iran, voir nos propos de philosophie mazdéenne dans le recueil L'âme de l'Iran, publication de la Société d'études iraniennes Paris 1950. Donc parlons maintenant du second projet ayant lui aussi porté le titre Combat pour l'ange, ce qui n'est pas pour rendre la situation légèrement confuse quand on fait des recherches dans le fond d'archives. Donc, le second projet portant le titre « Le combat pour l'ange » consistait à la publication des trois premières conférences Eranos de Corbin, celles de 49, de 50 et de 51, et du texte destiné au Festschrift de Jung pour ses 75 ans, puis qui correspond en réalité au volume 18 de l'Eranos Yarbour. Dans l'ordre, ce livre devait relier le récit d'initiation et l'hermétisme en Iran, recherche angélologique entre parenthèses, le livre du glorieux de Jabir ibn Ayan, rituel sabéen et exégèse ismaélienne du rituel, et le temps cyclique dans le mazdéisme et dans l'ismaélisme. Dans les dossiers aux archives, on trouve aussi un cahier de notes brouillonnes et un manuscrit respectivement intitulé Prologue et Prélude. Il témoigne de l'intention d'écrire une introduction aux quatre conférences Eranos. Donc, le prologue consiste à une relecture des conférences Eranos en point de forme, comme le montrent les numéros de pages qui correspondent en réalité aux paginations de la conférence Eranos, tandis que le prélude, c'est le premier brouillon du texte, mais comme tous les brouillons de Henri Corbin, il est très difficile à déchiffrer, et ce, même en gros plan. Donc, l'étude spécifique des textes reste à faire pour celui ou celle qui aura le courage de le faire. Ce projet de publication des conférences Eranos aux éditions de Minuit émerge, en fait, lorsque, sous la recommandation de Mircea Eliade, Georges Lambrick écrit le 5 octobre 1953 à Corbin. Très rapidement, le 27 novembre suivant, Corbin lui envoie un résumé de 3 pages du projet de livre des 4 conférences Eranos, afin que l'éditeur puisse produire un bulletin de souscription et de présentation. Le texte de présentation de Corbin, comme à son habitude, était trop long. Eliade le coupa pour qu'il entre sur le bulletin. Donc, en même temps, il faut comparer le texte original versus celui du bulletin de souscription, parce que le texte original contient un peu plus de texte. Donc, dans le résumé original, Corbin précise le double aspect du combat pour l'ange, qui thématise autant la dimension éthique vécue par le croyant, et je cite, « vivant la présence suzeraine de l'ange », que le combat pour, je cite, « reconquérir consciemment la présence qui donne à la lutte pour l'existence le sens d'un combat pour l'ange ». Le paragraphe conclusif du feuillet de présentation confirme d'ailleurs que Corbin entrevoit en 1950 sa démarche comme une contribution à la psychologie des profondeurs. Mais comme je l'ai montré ici même l'année dernière, Corbin va se distancier progressivement de la pensée jungienne à partir de la fin des années 50. De manière succincte, il conçoit l'ange comme le garant de l'individualité et de la personne individuelle. L'homme, je cite, « l'homme sans ange, c'est aussi bien le moi démesuré livré aux excès de la volonté de puissance que la créature impuissante dont les normes collectives abolissent tout dessein personnel. » 4 mois plus tard, le 9 février 1954, il retourne à Georges Lembrick 3 copies de son contrat pour la publication de « Combat pour l'ange ». Entre-temps, la reprise du millénaire d'Avicenne le pousse à terminer son étude sur les récits visionnaires d'Avicenne, étude publiée à toute vitesse dans la bibliothèque iranienne en 1954. Ensuite, sa nomination à l'EPHE le 13 juin 1954 bouleversera définitivement son programme de travail. Cette situation laisse en suspens non seulement son projet de livre avec Iliade autour de Jung, mais également les 2 projets qui existent sous le titre « Combat pour l'ange ». Donc, sans nouvelles de Georges Lembrick et ayant appris que ce dernier avait quitté son poste aux éditions de Minuit, il écrit finalement à Jérôme Lindon en septembre 1955, juste avant son retour à Téhéran, pour savoir si les éditions de Minuit sont toujours intéressées à la publication du premier volume de ses conférences Eranos. La réponse de Georges Lindon est sans équivoque, ils sont toujours intéressés. Je me perds un peu dans mes slides. Donc, ils sont toujours intéressés. Donc, de retour à Paris, en janvier 1956, Corbin rencontre enfin Jérôme Lindon et le projet est ensuite définitivement annulé. Voilà, maintenant j'ai le bon slide. La raison invoquée est qu'il n'y a pas assez de souscriptions, 33 pour l'exemplaire ordinaire et 6 pour l'exemplaire de luxe. Le contrat daté et signé du 27 novembre 1953 est alors résilié. Bon, difficile de savoir si c'est la seule raison qui a mené à l'annulation du contrat ou s'il y a d'autres raisons. Reste que le projet de publication des premières conférences Eranos de Corbin sous forme de livre devait ensuite attendre sa mort pour voir le jour. Donc, passons maintenant à l'histoire intellectuelle. Oui, voilà, c'est un petit résumé des deux projets sous forme schématique. Donc, l'histoire intellectuelle. Avec cette compréhension matérielle, il est maintenant possible de se demander quelle place le texte occupe dans la pensée corbinienne. Soyons clairs, le texte est hautement intéressant car il s'agit de la première tentative corbinienne, ou à peu près, de penser l'ange et sa signification. Le texte fait aussi écho à quelques conférences publiées par Corbin à la fin de sa vie, et notamment aux 3 textes qui composent le paradoxe du monothéisme. Donc, il me faut d'abord préciser quelques éléments concernant la manière dont l'œuvre corbinienne s'est construite, sinon il va être assez difficile de comprendre vraiment les couches de construction du combat pour l'ange. La période qui nous intéresse aujourd'hui est celle qui va de septembre 1945, donc quand il arrive à Téhéran, à juillet 1954. Moi, c'est la décennie qui marque justement son arrivée à Téhéran, puis sa nomination comme directeur d'études à l'EPHE. La première période où Corbin passe généralement de 11 mois par année en Iran, puis c'est une période dans laquelle il participe à la fondation de la Société d'Iranologie de Téhéran en octobre 1945. Ensuite, aussi, où il fonde la bibliothèque iranienne qui publiera en 1949 son premier volume qui était « Le dévoilement des choses cachées » d'Abou Yacoub Sejestani. Ensuite, outre la mise en place de structures de recherche, il reçoit aussi en 1947 une première lettre d'Olga Frobe-Kaptein l'invitant aux sessions Eranos de 1948, mais à cause d'un problème de calendrier, avec grand regret, il doit repousser cette première présence à Ascona en 1949. Et c'est aussi la période pendant laquelle il participe activement aux célébrations entourant le millénaire d'Avicenne. Et chose aussi assez méconnue, il recevra des mains de Julien Cahin, directeur de la BNF, le 20 octobre 1953, la Légion d'honneur. Donc, durant la décennie 1945-1954, à mon sens, quatre axes de recherche peuvent être établis. Le premier, c'est la question méthodologique et les sciences des religions. Donc, plusieurs textes traitent, surtout des conférences, traitent de cet aspect-là. Ensuite, la pensée pré-islamique de l'Iran, particulièrement le mazdéisme et Zarathoustra. Ensuite, l'alchimie, surtout à cause du décès de Paul Crase, qui était son ami, en octobre 1944, et du fait que c'est Corbin qui ira classer pendant trois semaines ses archives en Égypte de novembre à décembre 1946 sur le chemin de retour de son retour vers Téhéran. Donc, un intérêt alchimique présent essentiellement de 1946 à 1950, mais qui va réapparaître lors d'un cours à l'EPHE en 1972. Donc, enfin, le quatrième axe, à mon sens, c'est l'ismaélisme qui prendra toujours plus de place, surtout à partir de 1948. En résumé, le mazdéisme, l'alchimie et l'ismaélisme sont les trois grands courants qui l'intéressent à cette époque. Puis le thème central de cette période, c'est vraiment l'ange, particulièrement de 46 à 50, même si on pourrait discuter que ce thème-là est présent dans toute son œuvre. À cela, il ne faut jamais oublier non plus que la raison première qui porte son intérêt au mazdéisme lui vient en fait des travaux qu'il mène sur Suravardi puis les Ishrakion, et c'est ce qui l'amène vraiment à creuser ces aspects-là. Donc, Corbin est vraiment un infatigable travailleur. Puis si les textes publiés entre 1945 et 1954 donnent l'impression que le travail administratif prend vraiment une place considérable, surtout dans les premiers 5 ans de 1945 à 1950, les archives Corbin permettent de comprendre que plusieurs projets de publication sont élaborés, mais abandonnés. Bon, c'est le cas de « Combat pour l'ange », mais aussi de sa traduction du livre des Sawani d'Ahmed Razali, de son projet de livre avec Jung, autour de Jung avec Iliade, puis de la publication de ses quatre conférences Eranos sous forme de livre. Cette situation où ses propres textes, qui ne sont pas publiés, l'amènent à se reprendre lui-même, puis à se citer lui-même. Et là, j'ai perdu ma ligne. Voilà. C'est toujours mieux le papier, mais j'ai terminé ça d'écrire hier soir. Donc cette situation où son propre texte ne sont pas publiés, ça l'amène à reprendre et à développer des thèmes déjà présents dans le combat pour l'ange. Avec ce texte, il est donc possible d'éclairer le parcours intellectuel de Corbin et de suivre ses ramifications. C'est évidemment ses conférences Eranos qui recueillent le fruit de ses réflexions sur le temps et l'espace, qui correspondent aux deux premières sections du texte inédit, puis plus spécifiquement la conférence de 1951 sur le temps cyclique dans le mazdéisme et dans l'ismaélisme. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments qui se recoupent entre les deux textes. La conférence de 1953 sur Terre céleste et corps de résurrection reprend toute la question de la géographie de l'espace et aussi toute une question de la liturgie qui est vraiment d'abord dans Combat pour l'ange, mais on va dire grossi, élaboré, reconstruit, reconfiguré dans ses textes ultérieurement. Donc, en 1949, Corbin écrit « Au début de la période safavide, la pensée suravardienne a été l'objet de puissantes amplifications dans l'œuvre des maîtres de l'école d'Ispahan, tels que Mir Damad et Mola Sadra. Elle concourut, en se conjuguant avec la théosophie d'Ibn Arabi, à la formation de la gnose proprement chiite du haut des Simènes, dès avant cette période. Ibn Abi Jum'our, Haïdar Amoli, Dawani et ses élèves. » Donc, tout lecteur d'Henri Corbin trouvera quand même assez banale cette énumération, mais son intérêt vient du fait qu'elle date de 1949 et annonce en fait tout le programme des recherches que Corbin va entreprendre dans les 10 années qui vont suivre. Car le premier texte sur Mir Damad date de 1955, le premier texte sur Ibn Arabi date de 1956, Mola Sadra devient de plus en plus important à partir de 1959, Haïdar Amoli apparaît vers 1960. En présentant plus systématiquement le contenu du texte, nous verrons que plusieurs idées centrales de Corbin sont en germe dans le combat pour l'ange. Cela renforce encore une fois l'hypothèse que je suis prêt à soutenir, que l'œuvre de Corbin est une, mais évolutive. Donc, au sujet de la cohérence de l'œuvre de Corbin, notons qu'en novembre 1945, dans la conférence que M. Jambet nous a parlé un peu, qui est en réalité la première conférence qu'il va prononcer en Iran devant la toute nouvelle société d'iranologie à Téhéran. Donc, on est en novembre 1945, Corbin est arrivé en Téhéran en septembre 1945. Donc, il est vraiment encore exalté, on va dire. Il est possible d'y lire dans cette conférence en filigrane ce qui deviendra, à mon sens, la base de son herméneutique spirituelle comparée. Il y affirme « Il faut souhaiter que l'état des études et de la publication des textes nous permette quelque jour la grande comparaison féconde, la rejonction de deux traditions sœurs qui, du côté de l'Occident, s'étendaient des troubadours, y compris Dante, jusqu'à l'école de Jacob Böhm. » C'est donc dire que l'intention comparative corbinienne est présente dès son arrivée en Iran et teinte très certainement les choix des textes et de son approche de la pensée philosophique iranienne. Encore plus percutante est la note en bas de page qui accompagne cette intention comparative. Il écrit « Il faut, par contre, assister de temps à autre aux plats efforts dépensés par des gens qui veulent, dirait-on, abolir une invention qui gêne beaucoup. » Pourtant, ceux que la métaphysique agace n'ont qu'à s'occuper d'autre chose. Toujours lire les notes de votre page dans les Corbin. Cette prise de position en faveur de la métaphysique marque très fortement son approche de l'ange et son attitude positive envers le texte de Niebuhr. Vous parliez de certaines sources et Niebuhr est une source extrêmement importante. Justement, je vais en parler maintenant. Donc, deux penseurs doivent être évoqués pour comprendre le combat pour l'ange. D'abord, Henrik Samuel Niebuhr et ensuite, Mircea Eliade. Donc, d'abord, Corbin indique que c'est à partir et à la suite de la lecture du livre de Niebuhr qu'il mène cette recherche dans le mazdéisme. Pourquoi la posture métaphysique de Corbin est susceptible de défendre et amplifier l'interprétation de Niebuhr? Eh bien, parce que Niebuhr insistait vraiment pour faire de Zarathoustra une sorte de chaman extatique. L'interprétation du mazdéisme proposée par Niebuhr n'allait pas dans le sens de présenter Zarathoustra comme un réformateur religieux combattant le polythéisme, mais plutôt comme une sorte de chaman extatique. Je crois que ce qui avait le plus intéressé Corbin dans l'approche de Niebuhr, c'est en fait qu'il soulève un grand nombre de contradictions historiques autour de l'histoire de Zarathoustra, et que plutôt que de condamner une version pour en favoriser une autre, Niebuhr intègre et dépasse la contradiction à travers une sorte d'explication métaphysique. Du moins, c'est l'interprétation favorisée par Corbin, c'est-à-dire que les incompréhensions historiques sont dépassées lorsqu'on approche le problème à travers une phénoménologie de la conscience croyante. Corbin écrit à ce propos des incohérences historiques entourant Zarathoustra, bien loin cependant de permettre d'en apercevoir avec une évidence grandissante la trace imprimée dans un sol historique originel. Il semblerait que chacune de ces apparitions et réapparitions tendit plutôt à ôter aux hommes le souci et le simple pouvoir de déterminer le cadre extérieur de faits matériels, afin de les convier à choisir une autre ordre d'évidence et de manifestation, à considérer que les faits d'une expérience spirituelle sont des faits eux aussi, ou plutôt eux d'abord. Que ce qui a été éprouvé, cela aussi est réellement arrivé. Tel est l'axiome qui devrait guider toute recherche se proposant de configurer la mytho-histoire de Zarathoustra. Il n'y a pas à chercher bien loin pour comprendre ce que Corbin trouvait à la fois attrayant dans l'œuvre de Niebuhr et ce qu'il reprochait aux approches historicisantes. Fidèle à son habitude, Corbin ne cherche pas à faire de l'histoire. Il ne veut pas établir une causalité historique qui expliquerait un phénomène religieux. Il s'intéresse à l'expérience personnelle du croyant. Dans la conférence de 1947, à l'origine du texte « Combat pour l'ange », il écrit « Il semblait donc que partout où apparut la figure du prophète iranien, Ce fut pour arracher les hommes aux voies susceptibles de garder de lui ce qu'on appelle des traces historiques. C'est ici ou jamais l'occasion d'instituer ce principe. Ce qui peut ne pas être arrivé a en tout cas été pensé. La conception particulière de Corbin de l'histoire est de toute évidence d'ores et déjà constituée à la fin des années 40. Une situation qui l'amène à écrire dans son avant-propos « On a simplement voulu faire oraison librement sur quelques thèmes mazdéens, tout en ayant conscience qu'une telle composition rhapsodique reste forcément sommaire, incomplète et provisoire. » Une utilisation de termes musicaux qui anticipe d'ailleurs plusieurs thèmes qu'on va trouver dans Terre céleste et Corps de résurrection. Donc, pour bien comprendre la position corbinienne sur le Nivre de Niebuhr, il faudrait aussi pousser la recherche du côté de l'analyse des marginalia. Ça ici, c'est des images justement de son édition qu'on trouve à la bibliothèque de l'École pratique des hautes études. Et le livre de Niebuhr, il est annoté du début à la fin, ce qui prouve vraiment que c'est une de ses sources principales pour aborder le mazdéisme. Donc, le combat pour l'ange est aussi fortement marqué par Iliade. S'inspirant de la méthode morphologique d'Iliade, il lui emprunte particulièrement son attitude méthodologique. Donc, archétype et répétition, symbole et sacré, hiérophanie, théophanie et hiérophante, il tire plusieurs éléments du traité d'histoire des religions, mais aussi du mythe de l'éternel retour, deux textes publiés en 49 à Paris. Donc, une comparaison du texte de 1947, la conférence initiale, et du texte de 1950 pourrait d'ailleurs montrer précisément l'influence de ces livres d'Iliade sur le texte de Corbin et notamment sur le combat pour l'ange, ce qui m'apparaît vraiment être le texte le plus influencé par Iliade. Corbin écrit, mais en reprenant à plus de deux années d'intervalle, hein, donc les deux textes, il était nécessaire de tenir compte du développement des recherches, notamment d'un livre aussi essentiel que celui de Mircea Eliade, pour une conception de la science des religions qui affecte la manière même dont seront conçus les problèmes posés ici. Donc, lorsque je rappelais qu'à la relecture du texte de sa conférence de 1947, celle-ci ne lui plaisait plus du tout. La lecture d'Iliade derrière y est certainement pour quelque chose. Donc, il a lu le livre d'Iliade et il a fait « Il faut que je reprenne vraiment mon approche ». On sent qu'il a vraiment... C'est un choc très important, le traité d'histoire des religions. Donc, première incursion dans le texte. Donc, je m'excuse d'emblée de la densité allusive et du fait que je ne vais pas du tout expliciter en profondeur ce que je vais ouvrir ici. D'ailleurs, l'analyse vraiment fine du texte là, reste tout à fait à faire. Puis, comme je vous ai vraiment pas mal déjà ennuyé avec des considérations assez historiques et matérielles, voyez temps de vous donner quelques petites pépites fulgurantes qui peut-être pourront sustenter vos âmes. Qui sait? Donc, je dirais que plusieurs thèmes se trouvent d'ores et déjà sous une première forme dans le combat pour l'ange. Donc, certes, Corbin parle des anges dans ce texte-là, mais il essaie surtout de circonscrire philosophiquement le phénomène. Donc, il s'intéresse moins au texte de la tradition qu'essayer de comprendre comment on peut penser cet objet-là. Afin vraiment de lui donner un cadre interprétatif, puis une justification raisonnée. En ce sens, il parle moins de l'ange que, pour reprendre le titre d'une de ses conférences, de la nécessité de l'angélologie. Il précise aussi que n'étant ni un orientaliste ni un islamologue, j'ai pas l'intention trop de m'aventurer sur le terrain de la justesse de l'interprétation des doctrines mazdéennes ou islamiques présentées par Corbin. Ce que je veux cependant dire, c'est que Corbin est tout à fait lucide sur le fait que sa reprise puis son amplification de l'interprétation chamano-spirituelle de Niebuhr risque de pas du tout faire consensus dans la communauté des spécialistes. Donc, c'est ce qu'il laisse sous-entendre dans une lettre à René Grousset. Donc, il est conscient de ce qu'il fait, là. Donc, des fois, on se demande, mais oui, il sait très bien. C'est tout à fait lucide. Ce qui m'intéresse pour cette dernière section, C'est ce que peut nous apprendre ce texte sur la structure des idées de la pensée de Corbin lui-même et comment certains thèmes y sont mis de l'avant à ce moment-là, puis qui vont même juste réapparaître jusqu'à la fin de sa vie. Donc cet exercice renforce, à mon sens, l'hypothèse que l'œuvre de Corbin est une et qu'il ne faut pas lire les textes de jeunesse séparément de ses recherches en Iran, ni analyser les textes plus personnels de la fin de sa vie sans ses recherches sur le protestantisme, par exemple. Donc, certes, sa pensée évoluera progressivement par la découverte de niveaux spirituels et mystiques, mais l'axe philosophique de sa pensée reste peut-être celui du cogitor, du renversement du cogito, ce qui transparaît clairement dans le combat de l'ange. D'ailleurs, la découverte du cogitor est, il me semble, l'un des apports les plus importants du protestantisme dans sa pensée. Hein? Cogitor ergo sum, hein, non pas je pense donc je suis, cogito ergo sum, mais bien plutôt je suis parce que je suis pensé par Dieu. Un mode passif qui vient soutenir et structurer l'approche fondamentalement apophatique de Corbin. Le cogitor trouve le terme qui lui correspond dans l'être qui en est l'objet et qui est l'aboutissement de son action providente, sanctifiante, fortifiante, et qui peut alors, à son tour, porter son nom même, être saint par exemple, parce que rendu saint par elle, hein, ce que l'ancienne logique désignait techniquement comme la signification passiva. En d'autres mots, le cogitor est peut-être la signification passiva par excellence. L'exégète conduit à ce que lui-même révèle en lui-même. Laissons Corbin expliquer cette magnifique relation. L'ange ne peut annoncer qu'un être et ne s'annoncer qu'à un être qui d'ores et déjà porte son image. On a vu, M. Jean-Pierre vraiment nous a présenté ça avec grande éloquence. Donc, est son moi terrestre et c'est réciproquement pour cette raison que celui-ci peut émettre un ange. L'homme n'aurait pas la pensée de l'ange si l'ange ne pensait pas en lui cette pensée. Avoir un ange, c'est originellement être pensé par l'ange, car l'être humain sera ou la théurgie de son ange ou la proie de son démon. Une relation à l'ange qui n'est pas du tout conçue dans la dualité, mais pour reprendre le terme de Corbin, sous un mode de la dualitude. Terme qui apparaît, d'après mes recherches, pour la première fois justement dans « Combat pour l'ange ». Alors, il faut voir la situation duelle du monde dans lequel nous vivons n'est que la conséquence passagère de la catastrophe arimanienne, nous dit Corbin, et qui sera abolie par la venue du Sauveur à la fin des temps. Donc, pour celui qui a en tête le magnifique texte « Le temps d'Eranos », on trouve d'ailleurs une formule jumelle entre les deux textes. Dans « Le temps d'Eranos », Corbin écrit « Il ne semble pas du tout qu'Eranos ait jamais eu le souci d'être de son temps. Ce à quoi, en revanche, il aura peut-être réussi, c'est à être son temps, son propre temps. Ou son temps propre, dit-il ailleurs. En fait, pour arriver à écrire cela, il semble que Corbin ait simplement appliqué son modèle de réflexion de la dualitude au concept d'Eranos. Dans Combat pour l'ange, Corbin écrit « Chacun de nous tombe dans le temps. Il est prisonnier d'une date. Il est ou il fut de son temps, comme nous le disions hélas trop souvent en croyant ainsi tout expliquer. Mais était-ce ou est-ce vraiment son temps à lui? Pour que ce temps fût vraiment son temps, il faudrait que pour chacun la conjonction se fît et à partir de son essence absolument propre. » Donc ici, on voit vraiment des idées qui sont d'abord dans le texte et reprises différemment ailleurs. Donc parlons un petit peu de phénoménologie. Sans écrire explicitement dans ce texte qui propose une approche phénoménologique, Corbin revient quand même régulièrement sur cette question. Cela est important car sa perception de l'ange est tributaire de l'approche phénoménologique qui permet de concevoir l'événement spirituel. Car le phénomène, c'est ce que l'âme fait se montrer à elle-même, ce qu'elle projette à son horizon. Dans l'argument des livres 1 et 2 en islam iranien, Corbin écrit à propos de lui-même, Ma méthode se veut essentiellement phénoménologique, sans se rattacher à une école phénoménologique déterminée. Il s'agit pour moi de rencontrer le fait religieux en laissant se montrer l'objet religieux tel qu'il se montre à ceux à qui il se montre. La confluence de l'approche phénoménologique de la conférence de 47, affirmée dans le fait que pour Corbin, seule la phénoménologie religieuse peut avoir prise sur le monde intérieur, le raffinement de son approche ensuite par la lecture de Mircea Eliade et enfin l'expression pleine et entière de sa phénoménologie en islam iranien, cela montre, à mon sens, l'intime structure puis la cohérence de l'œuvre ici de 47 à 72. On pourrait aussi retourner dans des textes protestants avant, particulièrement dans son cours sur Luther et Amman, où il y a aussi du matériel pour aller en ce sens-là. Donc, maintenant, un petit peu de caténothéisme et de théomonisme. Donc, caténothéisme et théomonisme sont deux expressions sœurs. C'est un peu l'évolution de la même expression. Donc, elles réfèrent essentiellement à la même chose, à la même structure métaphysique supportant ce que Corbin appelle à cette époque-là, probablement sous l'influence de Mircea Eliade, une unio mystica, qui n'est pas une fusion mystique ou une confusion de l'union des personnes. C'est cette union, en essence, Corbin en parle vraiment comme d'une binuité, de l'unité de deux, d'une syzygie. Mais il insiste, je cite, « Cette union n'est pas une fusion ni une confusion des personnes. » Donc, comprendre que cette union n'entraîne pas un monisme et que pour garder ou rendre présente cette imagination, la recherche doit tendre non pas à réduire à l'identité, mais à saisir phénoménologiquement, sous les identifications multiples momentanées, la persistance de l'hypostase et sa fonction, de la puissance et de son objet, et son sens vrai et sa tropologie. D'ailleurs, l'utilisation de trope et de tropologie dans ce texte-là, c'est l'influence directe de ses recherches sur l'herméneutique de Amman. Donc, dans Combat pour l'ange, Corbin introduit pour la première fois l'idée du chaque fois, du caténa, du tout dans le chaque. Et si cette idée était un peu comme sortie de nulle part dans les textes ultérieurs, où il use du terme caténothéisme, dans Combat pour l'ange, on peut lire en sous-texte qu'il y a, il y est vraiment pour beaucoup dans l'aboutissement de cette idée. Corbin écrit « L'idée même de répétition implique celle d'un chaque fois, d'un caténa. L'analogie de rapport imposée par l'essentielle dualitude de l'archétype, qu'il s'agit ici de répéter, détermine à son tour la structure de ce chaque fois, le caténa de l'angélophanie. Pour reprendre mon allusion à Iliade, souvenons-nous seulement du sous-titre du mythe de l'éternel retour qui était « Archétype et répétition ». Alors, le lien est vraiment immédiat. Donc, maintenant, c'est la question du choix, puis de l'eschatologie. Donc, c'est ma dernière section. Donc, chez Corbin, l'eschatologie est subordonnée à la notion de choix. Un choix préexistentiel. C'est aussi cette notion de choix qui m'a amené à décrire Corbin comme un hérétique, car étymologiquement, l'hérétique, c'est celui qui choisit. Mais parce que l'hérétique est une personne qui choisit, son existence doit essentiellement s'entendre comme décision concrète, décision devant un possible parmi tous les possibles, qui dans cette décision vérifie pour nous sa réalité et sa réalisation. Elle n'est pas une hypostase ni une fixation théorique, elle a lieu chaque fois dans l'instant « hic et nunc ». Et ici, à noter que ce passage date de 1932, ce qui explicite parfaitement cette espèce d'unité que j'essaie de vous présenter un peu. Donc, dans le combat pour l'ange, Corbin indique que les Fravartis sont littéralement celles qu'ils ont choisies. Donc, en faisant nous-mêmes le choix de l'ange, on anticipe « hic et nunc » l'eschatologie. Corbin le dit magnifiquement. Exister chaque jour à la manière de l'ange, de l'ange de ce jour, c'est donc chaque jour reconquérir le temps sacré dont l'homme porte en lui la nostalgie, comme il porte la nostalgie du paradis. C'est chaque fois vivre au présent, l'instant oral qui transfigure, hiérophanise, et l'instant est le lieu. Donc, attitude propre au chevalier spirituel, dont sa devise pourrait être « Dieu est celui dont la cause est ma propre cause ». Ou encore, cette strophe de La Svesta, « Puissions-nous être de ceux qui transfigureront le monde. » D'ailleurs, cette strophe a été traduite à plusieurs reprises par Corbin et réutilisée vraiment dans plusieurs textes. J'en ai trouvé au moins trois ou quatre, mais il y a quelque chose à réfléchir de ce côté-là. En conclusion, donc la relation à l'ange est la manifestation personnelle de la dualité fondamentalement humaine, mais aussi sa résolution. Car par la présence vécue de l'ange, l'âme humaine dépasse le dualisme dans un choix héroïque qui ouvre la dimension spirituelle. Le chevalier spirituel n'est autre que celui qui fait le choix de conditionner son existence chaque fois par son attestation personnelle de la lumière. Aucune preuve historique ou théorique n'est nécessaire. À l'homme sur Terre de décider si, dans et par sa propre personne, il fera être ou au contraire non-être ce monde de lumière. Cette position est à la base de sa posture phénoménologique et ouvre à son herméneutique spirituelle, car Corbin le dit clairement, si un dogme peut être réfuté, on ne réfute pas un symbole. Cet état d'être, cette manière d'être, anticipe la vision post-mortem de l'ange sur le pont Sinvat. Ce qui nous achemine vers ma phrase conclusive, car Corbin l'avait relevé d'ailleurs chez Eugenio Dorce, il n'est pas certain que Dieu seul suffise.